Les petits contes qui crépitent au coin du Brasero.
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 Raconte.
Raconte.
Brasero raconte.
Qu'est-ce que tu racontes, Brasero?
Qu'est-ce que tu racontes, Brasero?
Eh, hey, Brasero, ça raconte quoi? Brasero.
Brasero.
Ça raconte
quoi? Qu'est-ce que tu racontes?
Tu la racontes ou tu racontes?
Mais qu'est-ce que tu racontes, Brasero?
Voici Monsieur Papillon, champion du tri sélectif. Un jour, son voisin lui dit « Mais vos poubelles finissent comme les autres !» Ce à quoi Monsieur Papillon répondit « Elles finissent recyclées, monsieur, car il ne faut que 269 canettes pour faire un beau vélo, 18 bouteilles en plastique pour faire un pull, 7700 boîtes de petits pois pour faire une automobile !» Convaincu, le voisin se mit à trier avec enthousiasme. Encore une démonstration de l'effet papillon. Éco-emballage, le petit point vert aux grands effets.
3 août 2035, Clermont-le-Fort. Trois personnes autour d'un feu, des déserteurs, des désertrices, se racontent.
Alors toi, t'es parti quand ?
Moi je suis parti il y a un mois à peu près. J'ai bossé pour l'ADEME, agence de l'État et de la maîtrise et du contrôle des gestes éco-citoyens. Au début, mon travail, c'était de la com. Je savais utiliser un ordi. Après le bac, j'avais besoin de thunes. Normal, quoi. Je mettais en graphique ou en texte, avec d'autres gens, les campagnes pour les éco-gestes. Le tri, les achats raisonnés, responsables, Bref, j'étais surtout à l'ordi, en fait. Et ils appuyaient leur argumentaire sur « Sauvons la planète et regarde, ça va vous faire faire des économies ». C'était relou, hein, c'était chiant, mais bon, c'était un taf, quoi.
Ouais, ouais, non, mais les éco-gestes, je connais, là. Tu sais, moi, j'ai 60 balais. Mais pour moi, ça a commencé avant, en fait. Quand on nous a demandé de trier le verre, dans les années 90. Alors j'ai compris qu'on me demandait de faire un truc gratuitement, alors que jusque-là, je l'avais toujours fait en échange de petites monnaies. Ouais. Je peux dire que c'est là la première fois que je les ai vus arriver avec leur travail gratuit sous forme de tri sélectif. Déjà, c'est débile leur truc, parce que le tri, c'est toujours sélectif. Tu fais du tri sans le sélectionner, toi. Bref. Après le verre, le carton, le plastique et tout ça encore gratos. Essuyer leur désastre avec de la main-d'œuvre gratuite et responsable pour ceux qui produisent la merde n'est pas à la nettoyer. Et en plus, ça leur rapporte. J'ai essayé de me mettre en grève. J'ai arrêté de trier. Mais là, dès que je mettais une bouteille en poubelle, un autre travailleur choqué se précipitait dessus pour l'enlever. C'est comme ça que s'est initié progressivement la culpabilité, le travail gratuit, qu'on nommait, comme t'as dit, éco-responsabilité. C'était le truc pour permettre au plus gros pollueur de polluer tout en croyant que le plus gros pollueur, c'est toi avec ta vieille 205 qui fait traîner une fumée noire sur des kilomètres.
Non, mais c'est clair. Moi, quand j'étais petite, je me disais, mais on fait des trucs hyper contradictoires. Par exemple, on utilisait 8 litres d'eau pour chaque passage aux toilettes, mais à l'inverse, fallait l'éteindre pendant qu'on se brossait les dents. Ou alors les cotons-tiges qui devaient disparaître, alors même que les produits bio étaient dans un emballage carton, puis réemballés dans des sachets individuels en plastique. On faisait des journées sans voiture à Paris, alors qu'à Orly, le même jour, il y avait 800 départs d'avion. On a interdit le purin d'ortie parce que c'était dangereux, alors que nos fruits et légumes regorgeaient de produits chimiques. On nous vendait des brosses à dents en bambou qui faisaient des kilomètres pour se vendre près de chez nous.
Ouais, mais ça, c'était avant quand même. Hein. Après, il y a eu la crise du pétrole, là, en 2028. C'est le cas. Ça a empêché la moitié du monde de se déplacer, de se chauffer, de s'habiller. Bah, là où je bossais, l'agence, elle a eu d'autres rôles. Au début, on avait des phrases types pour les personnes ou les collectifs là, qui remettaient en cause les campagnes et qui disaient que l'agence s'attaquait pas aux vrais problèmes. Genre l'industrie, l'agroalimentaire, les paradis fiscaux, etc. Désormais, ces gens-là, on devait les signaler, les fichiers.
Ah ouais, je m'en rappelle.
Dans mon service, à Toulouse, il y avait une équipe spéciale dédiée pour intervenir physiquement chez l'habitant ou dans les événements publics, contre ceux qui résistaient ou aux consignes de tri ou même ceux qui les appliquaient tout simplement pas.
Non, mais c'était hyper compliqué de résister. En plus de ça, il y avait une espèce de grosse pression psychologique. Le discours, il était flippant. En fait, ça faisait en sorte qu'on se croit tous responsables. regarde, en fait, on nous disait des trucs et tu te disais, ben, ouais, je veux pas que ma planète crève parce que j'ai pas éteint la lumière.
Du coup, ils avaient gagné. Et tu vois, à l'agence, par exemple, on déclarait les citoyens résistants comme individus menaçant l'équilibre climatique par refus d'obtempérer aux éco-gestes.
Mais oui, je me souviens de ça. Et encore, au début, ça allait parce qu'il y avait assez de ressources pour les pays riches. On consommait tout en étant pseudo-responsable. Mais quand les ressources ont commencé à manquer, là, il y a eu la politique du permis à points écolo. Ce qui se passait à l'échelle mondiale s'est reproduit à plus petite échelle. L'idée de la relocalisation du pillage, ils ont appelé ça. Le permis à points écolo, c'est ton droit à consommer. Plutôt qu'une certaine somme d'argent, tu as un droit d'usage sur les biens communs, lié à l'empreinte écologique de toi et de ta famille sur plusieurs générations. Au début, il y avait tout un discours des communs, de l'usage responsable, de « à chacun selon sa responsabilité ».
Ouais, bah tu vois, et après nous, bah, on s'est retrouvés à faire des fiches sur des personnes, n'importe qui, ou des gens en particulier, des collectifs, des orgas. L'agence, elle a constitué un bras militaire, une section de renseignement. Là, j'ai commencé à me dire que c'était dur, quoi. Enfin, moi, j'étais pas à l'aise, en fait.
Mais c'est clair, et là, c'est parti en cacahuète totale. Au cinéma, selon ton origine socio-écologique, tu avais soit pas de place, soit une place avec pédalo pour alimenter le générateur, soit la place premium. Après, on a commencé à être classé en classe éco, éco plus, premium et privilège. Le calcul était fait par un algorithme qui faisait un savant calcul entre ton empreinte écologique et celle de tes ancêtres sur deux générations. Si t'avais dans ta famille une grand-mère camionneuse, t'étais maudit sur cinq générations. Sortir de la classe éco était tout bonnement impossible. Du coup, c'était l'hygiène au sable pour pas gaspiller l'eau, manger froid sauf à Noël pour pas utiliser d'énergie, et que des habits de récup. Pour s'en sortir et prendre un peu des éco-pecs, tu devais multiplier les éco-gestes. Trier les poubelles des premiums et des privilèges, donner des heures de pédalage à la centrale éco-électrique, ou dans les éco-taxis.
Non mais à qui le dis-tu, moi, mon grand-père...
Ça fait longtemps, quoi.
Il livrait du gasoil. Du coup, on a morflé, mais sur 4 générations.
Ah, tu m'étonnes.
Mais à la base, pour lui, c'était un bon plan, tu vois. Il avait le monopole sur le fuel soviétique. C'était de la balle. Bref, moi, du coup, je peux vous dire que je suis un champion de la pédale. Pour réunir les éco-pecs nécessaires pour me nourrir, j'avais un plan bien rodé. J'étais le meilleur éco-taxi de la zone et en plus, je doublais les livraisons avec les éco-Uber Eats. Et puis un jour, paf, le drame, j'ai écrasé un hérisson.
Non.
Je suis passée en procès pour écocide. En plus, c'était une femelle et elle était enceinte.
Mais c'est ça qui était insupportable. Les soupçons permanents, les regards de biais, mais les peines absurdes. Alors, regarde-toi, des pauvres gens, ils avaient un accident. Ouais, moi, avec ça, là, moi, je me suis cassé, quoi, j'ai tout plaqué. C'est pas possible.
Ben, moi, j'ai fait un entol. Où j'ai pédalé pour rien dans un complexe de cinéma pour privilège vers Tournefeuille là-bas. J'étais dégoûtée, plus d'avenir, j'étais désespérée. Quand j'ai eu purgé ma peine, je savais plus quoi faire. Alors là, je me suis mis à marcher. À marcher. À marcher, 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 mécaniquement. Je me suis éloignée de tout ça. Je me suis pas tout de suite rendu compte de ce qui m'arrivait. Après 2 jours, 3 nuits, je suis sortie des zones urbaines. J'ai réussi à me glisser sous les barbelés. Et j'ai continué à marcher. Marcher, marcher. Jusqu'ici, en fait.
Moi, je suis arrivée ici après mon rendez-vous hebdomadaire à Écopôle Emploi. Vous vous souvenez de Écopôle Emploi? En gros, un jour, je passe à l'accueil chercher les clés de l'éco-vélo, avec lequel je devais aller pédaler 1 heure pour charger la batterie qui permettrait d'éclairer le bureau pendant mes 15 minutes de rendez-vous. Là, on s'est retrouvés à faire des tours de la place avec les 20 autres personnes qui avaient rendez-vous à la même heure que moi. Moi, au début, on se lance quelques regards, on voyait les autres pédaler en rond et je me disais, mais pourquoi ils se barrent pas par la rue transversale? Et là, j'en vois une qui s'engouffre dans une ruelle. Et celui qui était derrière elle l'a suivi, et encore un autre. Et là, tous les uns après les autres, on s'est barrés de là avec nos vélos Écopôle Emploi. On passe devant leur bureau où les LED commençaient manifestement à faiblir, il n'y avait plus de lumière et tout, et faisaient une tête chelou et on a continué notre route. On s'est barré.
On en est là.
Ce qui est sûr, je crois, c'est qu'on n'y retournera pas.
Ça c'est clair.
Non, c'est mort.
Savez-vous qu'au bureau, nous produisons 120 kg de déchets par an ? 120 kg, c'est beaucoup. Et pourtant, quelques éco-gestes simples permettent de réduire cette quantité d'un tiers. Un tiers, c'est 40 kg. Et dans l'entreprise Happy Service, on se lance.